la notion de valeur pour la biodiversité, elle est née aussi de la conscience qu'il fallait la protéger. Donc, en effet, pourquoi attribuer une valeur économique à la biodiversité? Un des arguments des économistes est que la gratuité de la biodiversité est problématique parce que c'est ce qui va la mener à sa perte, enfin à sa consommation déréglée, son épuisement, même si on est sur des ressources qui sont normalement renouvelables, et donc à sa destruction, d'où la nécessité de lui attribuer une valeur pour la protéger d'un usage destructeur et surtout l'intégrer dans des processus économiques de régulation de ses usages. La quantifier pour mieux réguler d'une manière objective et aussi lui assigner une valeur pour prendre conscience de sa contribution au bien-être des hommes. Et pour ça, donc, la communauté scientifique, les économistes, les philosophes se sont penchés sur la question de la valeur pour la biodiversité avec plusieurs conceptions selon les représentations qu'on en a. Donc on voit qu'on a cette conception écologique, scientifique de la biodiversité comme tissu vivant de la planète. Donc ça fait écho à ce qu'a dit Lucas sur les services que nous rendent ces êtres qui sont pour la plupart invisibles. On a aussi l'idée d'une valeur intrinsèque qui est née des réflexions philosophiques. Et qui se demande s'il faut assigner une valeur en soi aux êtres vivants. Mais là encore, cette notion de valeur intrinsèque, elle peut aussi être contestable elle est même contestée par certains philosophes quand on est face à des nuisibles. Donc, par exemple, des moustiques qui sont responsables d'épidémies en Afrique. La question se pose de leur valeur intrinsèque. Par ailleurs, dans notre société, on a maintenant la notion de valeur patrimoniale par rapport aux aménités que nous produisent la biodiversité en général, notamment les visibles. Et donc l'économie qui a essayé d'intégrer, enfin qui a plutôt une vision donc utilitariste, instrumentale de la biodiversité, et sur laquelle donc je vais m'attarder. La valeur économique de la biodiversité, donc je reviens rapidement sur la conception économique de la valeur, qui est une valeur anthropocentrée, utilitariste, donc instrumentale, c'est-à-dire qu'elle est mesurée par rapport au bien-être que produisent les biens pour les hommes. Et marginaliste, c'est-à-dire qu'elle se positionne de manière relative, donc et qu'on n'est pas sur une valeur absolue des biens. Et elle se fonde en général sur deux choses, la rareté et l'utilité. Pour la biodiversité, en théorie, se pose pas tellement la question de la rareté, parce que la cyclicité des processus, la résilience des écosystèmes font qu'on n'est pas, enfin que la bio, que ce, ne se pose pas forcément la question de l'épuisement de la biodiversité, sauf justement quand on lui demande plus que ce qu'elle peut fournir, et c'est le cas aujourd'hui avec la surpêche par exemple, qui amène à l'épuisement d'un certain nombre de ressources halieutiques. Et donc l'utilité qui renvoie à cette conception utilitariste de la valeur et qui fait qu'on n'évalue pas la biodiversité en elle-même, c'est-à-dire les espèces, les écosystèmes, les gènes, mais on l'évalue pour les services rendus à la société et avec une notion très importante qui va être au cœur des processus d'attribution d'une valeur économique à la biodiversité, qui est la notion de service écosystémique. Qui est apparu dans les années 90, donc très récemment aussi. Et les services écosystémiques, ce sont de manière générale les bénéfices biologiques, économiques, culturels que les êtres humains retirent des écosystèmes. Et le rapport d'évaluation des écosystèmes pour le millénaire, c'était en 2005, donc définit trois, quatre grands groupes. En effet, il y a quatre groupes, mais le dernier est assez particulier puisque c'est le, donc, le, le service d'appui qui, en fait, qui renvoie à l'interdépendance des services écosystémiques entre eux et en fait à, voilà, oui, à l'interdépendance des écosystèmes. Mais sinon, on voit que c'est une notion qui englobe une vision assez large de ce qu'est la biodiversité et qui prend en compte les interactions écosystémiques et même la diversité génétique. Donc à ce niveau-là, c'est plutôt une avancée, enfin une notion qui tente d'articuler la gouvernance socio-économique de la nature et les processus biophysiques qui régissent le fonctionnement des écosystèmes. Et comme je l'ai suggéré, c'est une notion qui va servir de justification théorique pour tous les instruments de marché de la protection de la biodiversité, puisqu'ils vont permettre l'évaluation monétaire des fonctions écosystémiques et devenir des références pour l'attribution d'une valeur à la biodiversité. Et bon, j'ai mis un petit exemple parce qu'il est assez, il permet de se rendre compte de l'importance de certains services écosystémiques. Donc celui des abeilles, où l'INRA estime que les abeilles domestiques et sauvages contribuent à 80%, à la pollinisation de 80% des espèces de plantes à fleurs. Et service écosystémique évalué à 150 milliards d'euros sur l'année 2005. Donc, l'air de rien, cette notion, l'idée de service écosystémique, elle nous permet rien que de nous rendre compte de l'importance des services que nous procure la biodiversité. Mais donc, pour revenir plus précisément à l'utilisation de la notion en économie, le problème qui va se poser, c'est que les économistes et les scientifiques vont être confrontés à des difficultés d'évaluation et à la nécessité de simplifier en fait l'idée de service écosystémique. Et c'est ce qu'on va voir donc avec les services écosystémiques. Avec les instruments monétaires pour la protection de la biodiversité. Y en a beaucoup qui sont très différents. Donc les paiements pour services écosystémiques, dont vous avez sans doute entendu parler, les mécanismes de compensation, les subventions, les labels, etc., qui sont tous relativement récents, entre les années 90 et l'année 2014. Et donc, je ne vais pas tous les évoquer, je vais simplement parler des paiements pour services environnementaux assez rapidement, qui se basent sur l'idée que la société retire des bénéfices du fonctionnement de certains écosystèmes préservés, par exemple le bénéfice d'avoir de l'eau potable, donc à titre d'exemple, alors que sa préservation a un certain coût. Qui n'est généralement pas assumé par les bénéficiaires des services, donc les buveurs d'eau potable, les entreprises, les collectivités. L'idée, c'est par le biais de contrats entre la puissance publique et un propriétaire privé ou même entre acteurs privés, de rémunérer ceux qui fournissent les services écosystémiques. Et de faire payer les bénéficiaires de ces services environnementaux. Et donc, par exemple, sur un bassin versant, un paiement en services écosystémiques qui peut exister, c'est de rémunérer des propriétaires terriens pour les rémunérer du service d'épuration et de filtrage des eaux. Qui est rendu par le couvert forestier ou les zones humides sur lesquelles ils sont. Donc, inciter en fait ces propriétaires à conserver, protéger leurs zones humides et les écosystèmes qui sont présents pour le service que ces écosystèmes rendent au regard de la qualité de l'eau pour la collectivité. Donc ce sont des instruments monétaires basés sur l'incitation à la préservation. Et ils ont, donc, à partir de ce principe-là d'inciter, sont nés aussi des instruments de compensation, donc plus récents, dans les années, vraiment les années 2000, voire 2005. Et basé sur l'idée que comme on ne parvient pas à réduire les impacts des activités sur la biodiversité, on compense par une action positive ailleurs ou à côté. Donc au début, c'était une compensation environnementale essentiellement en nature, avec des mesures de restauration, de réhabilitation, de création de sites. Et on est ensuite passé dans une logique financière, avec l'émergence de mesures compensatoires des atteintes à la biodiversité et des passages à des mécanismes de marché qui sont fondés donc sur la conversion en unités de biodiversité des services écosystémiques et la recherche surtout d'un système d'équivalence entre la perte de biodiversité d'un côté et un projet de compensation. Je vais prendre un exemple. Par exemple, c'est un exemple que vous lirez un peu partout, mais c'est parce que c'est un des projets où il y a eu le plus de projets de compensation. L'exemple de l'aménagement de l'aéroport de Notre-Dame-des-Landes, où l'aménageur, pour compenser son impact sur les écosystèmes, a fait appel à un bureau d'études pour mesurer l'impact sur la biodiversité. Donc, ce bureau d'études mesure les services écosystémiques en jeu dans le projet d'aménagement en faisant une nomenclature des espèces menacées, enfin des espèces et des services. Face au problème de comparaison de ces services et des espèces entre eux, le bureau d'études est forcé de réduire donc ces espèces à des unités de biodiversité qui sont additionnées les unes les autres, mais qui sont du coup, cette réduction d'unité de biodiversité, elle permet d'avoir une unité commune et commensurable qui va permettre une comparaison entre ce qui est détruit et ce qui va compenser. Et à partir de ça, on sélectionne des projets pour lesquels on mesure des unités de biodiversité gagnées, donc compensées. Et quand il y a équivalence entre les unités de biodiversité du projet d'aménagement et du projet de compensation, on considère alors qu'il n'y a pas de perte de biodiversité, voire même un gain de biodiversité. C'est-à-dire qu'on peut même arriver à un projet qui prétend qu'il y a un gain net de biodiversité grâce à un projet de compensation, par exemple la création d'une réserve 3 km à côté de ce projet d'aménagement. Donc on voit déjà que ça pose des problèmes, notamment, enfin que la notion d'équivalence là entre deux projets pose déjà des problèmes sur lesquels je vais revenir après, mais surtout revenir sur les banques de compensation, donc très rapidement, qui poussent un peu cette logique de financiarisation de la biodiversité, puisque ces banques, l'idée, c'est qu'elles achètent des droits sur une zone présentant un intérêt écosystémique, et elles travaillent avec une ONG pour protéger cette zone, et à partir des résultats de la conservation, elles proposent des unités de biodiversité, des actifs biodiversité plutôt, à des aménageurs qui seraient intéressés pour les acheter et réaliser leur projet d'aménagement. Donc on voit qu'il y a une logique de financiarisation, de création d'un marché financier de la biodiversité, à des actifs de biodiversité. Mais ces logiques de financiarisation, elles posent des controverses à la fois scientifiques et éthiques. Tout d'abord, des problèmes de mesure, parce qu'il y a autant de mesures d'unités de biodiversité que de projets de compensation. C'est-à-dire que pour l'instant, ces bureaux d'études, ces bureaux d'experts ne sont pas du tout normés dans le sens où il n'y a pas de mesures type, et donc il y a extrêmement de différence entre les bureaux d'études. Cette mesure de la biodiversité, elle est contrainte à un réductionnisme très important des services écosystémiques, lié à la nécessité de réduire les écosystémiques en unités de biodiversité, et ces unités qui ne peuvent pas rendre compte évidemment de la complexité des écosystèmes et notamment de l'interdépendance entre des écosystèmes. Et du coup, ça va avec l'argument de, enfin, avec le fait que ça suppose une nature substituable, c'est-à-dire, est-ce qu'on peut reconstituer, enfin, est-ce que c'est pertinent d'essayer de reconstituer un écosystème ailleurs, sachant que les écosystèmes entre eux sont très interdépendants. Donc voilà la question, l'aéroport Notre-Dame-des-Landes sera-t-il vraiment écologiquement neutre? Est-ce que c'est honnête de dire qu'il y aura une équivalence entre le projet de compensation et la perte de biodiversité? D'un point de vue scientifique, ça l'est pas du tout. Et enfin, une question que pose aussi la compensation, enfin, le principe même de compensation, c'est est-ce que le fait de compenser, c'est pas légitimer un droit à détruire? Parce qu'au final, on compense plus qu'on empêche de détruire. Et les aménageurs arrivent systématiquement à leur objectif. Les problématiques que ça pose, c'est par rapport aux impacts sociaux et politiques des instruments de marché, et notamment l'asymétrie entre les acteurs qu'induit l'assignation d'une valeur économique au service écosystémique. Et plus précisément, y a un problème de. Les acteurs privés sont souvent confrontés à un rapport de force des acteurs économiques. En effet, quel est le pouvoir de négociation d'un agriculteur face à une banque de compensation qui va chercher à acheter sa zone pour ensuite y produire des actifs de biodiversité? Et donc, souvent, ces banques de biodiversité sont amenées à tirer les prix vers le bas au détriment des propriétaires. Et enfin, un argument que je trouvais intéressant, que j'ai pris d'un économiste qui s'appelle Maxime Combes, qui expliquait que dans ces processus de financiarisation, de compensation, les ONG étaient impliquées parce qu'elles souvent, elles étaient. Donc, recruter pour réaliser cette conservation sur un territoire, et que donc en échange d'un certain financement, et que du coup se crée une dépendance financière assez perverse des ONG à ces nouveaux principes de compensation. Et voilà, je voulais donc face à ces problèmes donc voilà que enfin socio-économiques que soulèvent ces instruments, je voulais revenir sur un exemple qui est celui de l'impact de la brevetabilité des ressources génétiques agricoles, avec le constat aujourd'hui que ce sont des grandes entreprises agricoles, telles que Monsanto par exemple, qui possèdent le patrimoine génétique de l'agriculture intensive et qui contribuent à réduire très significativement la diversité agricole au détriment des agriculteurs locaux. Donc, comme vous le voyez sur le graphique, en 1980, on avait moins de 5% du patrimoine génétique agricole utilisé dans l'agriculture de 1903. Donc, voilà. Donc déjà, ça pose des problèmes économique pour ces agriculteurs locaux, mais c'est aussi une menace pour la sécurité alimentaire mondiale, puisque le jour où il y a une épidémie sur ces milliers d'hectares de monoculture, il y a un risque de famine énorme se pose. Donc voilà, ce dernier exemple, c'était aussi pour arriver à des éléments de conclusion sur l'idée que les problèmes que pose l'utilisation d'instruments monétaires pour la biodiversité, selon moi, sont moins dans l'idée d'assigner une valeur économique à la biodiversité, même si les instruments économiques sont finalement assez peu adaptés à la complexité des écosystèmes, mais plus dans le fait que cette biodiversité, elle est de plus en plus soumise à des logiques d'appropriation et d'appropriation dans les mains d'un nombre de plus en plus réduit d'acteurs, qui sont les multinationales, les grands aménageurs, les bureaux d'études, les labels de certification écologique et les banques d'unités de biodiversité.